Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Chaim Shalom ben Mazal Zichrono Livracha. Tout bon juif est censé croire, c'est partie des 13 articles de foi de Maïmonide, que Mashiach peut arriver à chaque moment. Et comme écrit Maïmonide, non seulement le croire, mais l'attendre. Donc il nous dit d'attendre Mashiach. Dans cette mesure, il est normal que, surtout dans les époques où on voit que rien ne va, on essaye de voir par rapport au texte qu'est-ce qui pourrait nous montrer qu'effectivement c'est proche. On va aller dans ce sens, bien que on peut se tromper, puisqu'aujourd'hui on s'est toujours trompé, tous ceux qui ont annoncé sont toujours trompés, on n'annonce pas, on dit simplement regardez les faits, regardez les textes. Il y a une corrélation, et il se peut que Bezrat Hashem, au bout du compte, Mashiach vienne, il se peut que non. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change pas grand-chose, ça change qu'on va l'attendre un peu plus, et surtout, attendre ne signifie pas, je suis sur mon fauteuil comme ça, et puis il vient, youpi, d'accord? Ça signifie se préparer, parce que c'est un grand dévoilement de sainteté, et celui qui n'est pas suffisamment saint pour recevoir Mashiach, et bien il ne sera pas là. Ou avec beaucoup de souffrance, à Dieu ne plaise. Il est écrit dans Traité Megillah que le Mashiach, pardon, il est écrit comme ça, il est écrit que la Géoula aura lieu dans une septième année. La Gemara explique comme ça, cela ainsi, elle dit pourquoi est-ce que dans la septième bracha de la Amida, on dit « Baruch Hashem Goel Israël »« Béni soit l'Éternel qui sauve Israël » La Gemara répond parce que la Géoula aura lieu dans une septième année. C'est-à-dire qu'il y a un cycle de jachère, on doit laisser, pendant 6 ans, on travaille la terre, septième année, on la laisse non travailler. Nous sommes en septième année actuellement. La Gemara rétorque, comment tu peux me dire que la septième année il y aura lieu la Géoula, alors qu'on a un enseignement qui nous dit que la sixième année, il y aura des bruits de chauffards. La septième année, il y aura la guerre. Et seulement en sortant de septième année, Mashiach ben David, le fils de David, se dévoile. Répond la Gemara, c'est vrai, cet enseignement est vrai, mais la guerre, c'est déjà un début de Géoula. C'est déjà, on voit déjà le bout du tunnel. De quelle guerre s'agit-il? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est pas écrit. Il est écrit qu'il y aura des guerres avant que Mashiach vienne. Mais quelle guerre? Est-ce que c'est une guerre, je sais pas moi, le Hezbollah avec le Hamas contre nous? Est-ce que c'est une guerre? Alors il est écrit qu'il y aura qu'il y aura une opposition, une guerre entre l'Orient et l'Occident. Bon, il y a toujours eu. Depuis l'époque des Croisés, les Byzantins, depuis Mohammed, d'accord, il y a toujours eu des combats entre l'Occident et l'Orient. Bon, c'est intéressant de voir qu'actuellement, toute personne sensée sent que les choses vont très vite. C'est-à-dire que l'actualité, tous les jours, maintenant la Libye, il y a un nouveau État islamique en Libye, l'Italie envoie 5000 hommes se battre là-bas, Obama envoie 4000 hommes se battre contre le Daesh, ça fait beaucoup de temps que les armées qui étaient censées avoir quitté l'Irak, et ouf, ils disent, on respire un peu, tac, on les fait revenir tout de suite. Ce Daesh, qui n'est plus limité à Syrie-Irak aujourd'hui, le mouvement islamique fondamentaliste, il est en Europe, Copenhague, Paris. Alors, tout le monde comprend que les choses avancent très très vite. Quand on sera avec Géoula, on ne sait pas, mais on espère que c'est très très bientôt. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est très bientôt comme d'habitude? Oui.
Pour l'instant, on est en plein dans la galoute, parce qu'il y en a qui disent qu'on est déjà en galoute.
On est en phase. Le Rav Israël, il a dit, le 9 av, l'année 1917, c'était l'année Tirad. Tirad signifie du tremblera. Il a dit que les douleurs d'enfantement de mission ont commencé. Donc tous sont d'accord que nous sommes actuellement en phase d'accouchement. La question est, est-ce qu'on doit maintenant déjà mettre des guirlandes et applaudir et mettre la musique parce que la femme va accoucher, ou bien elle est en plein hurlement parce qu'elle n'a pas encore accouché. Elle est en plein hurlement. Est-ce qu'on doit déjà dire que c'est la Géoula ou pas? Alors on dit qu'on est en face de Géoula. Ça veut dire qu'on est content parce qu'on sent que c'est incessamment sous peu. Et on voit que tous les signes inscrits déjà dans la Torah et dans Chazal se réalisent, tels que le plus grand signe qui est marqué dans la Torah, dans Parashat Nitzavim, que le peuple d'Israël fera tshuva, chose qui n'a pas eu lieu depuis des millénaires, comme un mouvement de tshuva pareil n'a jamais eu. À la fin de Daniel, début du 12e chapitre, qui est le dernier chapitre de Daniel, qui aura, avant que le Messie vienne, il y aura un malheur qui aura jamais, comme il n'y aura jamais eu de toute l'histoire au peuple d'Israël. Je pense qu'on parle de la Shoah. Le retour physique en terre d'Israël, dont la Torah parle, donc tu feras tshuva et tu t'amèneras en terre d'Israël. D'après la Gemara dans Sanhedrin 97, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, la terre d'Israël qui donne ses fruits de façon abondante. C'est un désert aride et la terre donne ses fruits. Toutes les valeurs, les bonnes valeurs disparaissent. Il y a l'insolence, il y a les coupes qui éclatent. Comme c'est marqué à la fin du Trek Toubot, la haine contre les étudiants de Torah, en Israël c'est une chose extrêmement actuelle. Tu as 4 personnes qui sont en prison actuellement, 4 jeunes gens qui sont en prison parce qu'ils veulent étudier la Torah et pas aller à l'armée. Dans aucun pays pareil, on a une chose pareille. Aucun pays au monde. D'accord ? En Israël, oui. Donc c'est une situation anormale qui, quelque part, est réconfortante parce que ça ne peut pas aller plus mal, quelque part. En tout cas, ça correspond aux choses qui nous montrent que nous sommes dans la bonne direction. Maintenant, vous direz, ok, mais ça fait déjà... comme dire, en 1917, il a dit ça, ça fait bientôt un siècle. Donc, ça avance, phase d'accouchement, il fallait prendre du temps d'accoucher, la dame. Oui, je suis d'accord avec toi. On espère que c'est pour très bientôt. J'ai 2 petits choses à vous raconter qui me montrent que c'est pour bientôt. Moi, personnellement, en tout cas, j'avais demandé au Rabbi Nissan Abashaoul à l'époque. Rabbi Nissan Abashaoul, c'est un homme extrêmement saint, qui avait Ruach HaKodesh. Rav Moshe Tzadka, qui est le Rosh Hashiva de Prat Yosef, il a dit sur lui, c'est extraordinaire. Tout ce que le Rav disait, se réalisait. C'est extraordinaire. Il avait une bouche sainte. Donc non seulement il voyait, il pouvait même changer des choses. Et en 1990, j'étais avec lui à table, avec sa famille et ma famille. Je me demandais, Kvodara, est-ce que nous, là, on va voir Mashiach? Il m'a dit, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. Dans Tachem, on a l'assurance. Mes parents sont vivants, mais ils ne sont plus très jeunes du tout. Jusqu'à 120 ans, dans Tachem, qui vit en bonne santé. Mais ce n'est pas pour... c'est pas pour dans 2000 ans. Maintenant, un peu plus proche, mon voisin de palier, M. H., qui a le plus grand gmar, le plus grand organisme de presse sans intérêt, en tout cas de Jérusalem, je pense d'Israël, que tous les gens qui ont de l'argent, au lieu de le mettre à la banque et recevoir 1 ou 2 ou 3 intérêts de pourcent annuels, ils mettent chez lui et reçoivent des centaines de milliers d'intérêts dans leur lamaba. Cet argent-là est prêté sans intérêt à des gens qui ont besoin. Et là, chez lui, des millions de dollars, que c'est pas à lui, c'est pas un monsieur qui est riche, mais il s'occupe de ça très très bien, les gens ont confiance, donc... On peut mettre chez lui, tu as comme ça 50 000 dollars en attendant pour un mois, tu mets chez lui, il est prêt en attendant, tu t'arrives, tu demandes, tac, il n'a aucun problème, ça sort tout de suite. Donc il a beaucoup d'argent dans cet organisme qui fonctionne, donc il n'a pas d'argent chez lui, tout est toujours dehors. Et par force des choses, il est très proche des grands de la Torah. Alors il m'a dit, il y a quelques semaines, il est très proche du Rav Chaim Kanievski, donc un des plus grands rabbins de ce monde à Bnei Brak, et du Rav Steinman, aussi peut-être le plus grand rabbin de ce monde à Bnei Brak aussi. Et il m'a dit que le Rav Chaim Kanievski l'a fait déléguer. Il dit, va voir de ma part le Rav Steinman, et dis-lui, Kvodo Maran Rosh HaYeshiva, son honneur, le Rosh HaYeshiva, le Rav Steinman, verra Mashiach. C'est-à-dire que mon voisin, Hillel Cooperman, a été fait envoyer, délégué par le Rav Chaim Kanievski pour dire au Rav Steinman, sachez que vous allez voir Mashiach. Rav Steinman, il a 104 ans. Jusqu'à 120 ans aussi, il va être Hachem. Mais bon, c'est pas non plus pour dans 2000 ans. Alors on espère, Hachem. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est... J'ai encore un petit truc là sympathique qui nous montre que ça a l'air proche aussi. Rabbi Yehuda Hassid. Rabbi Yehuda Hassid, qui est un des grands sages du Moyen-Âge, a écrit que pendant 8 jubilés, on a donc le cycle de 7 ans. 7 cycles de 7 ans nous font 49 ans. La 50e année s'appelle Yovel. Jubilé en français, ça vient de l'hébreu Yovel. Où là aussi, la terre est en jachère, on ne travaille pas. De plus, tous les terrains que les gens ont vendus reviennent à leur propriétaire initial. Tous les esclaves à l'époque étaient libérés, etc. C'était une année de grande libération. Ça dure 50 ans. Il a dit que les Turcs allaient occuper la terre d'Israël pendant 8 jubilés. Ça fait 400 ans. En 1517, les Turcs, les Ottomans, l'Empire Ottoman, a conquis Jérusalem de la main des Mamelucs. Les Mamelucs, dès l'an 1250 environ, à l'époque où vivait Rabbi Yehuda Hassid, c'est eux qui avaient ici la maîtrise de Jérusalem, la domination sur Jérusalem. Je ne sais même pas si l'Empire Ottoman... L'Empire Ottoman existait. Il y avait un petit empire turc à l'époque de, autour d'Istanbul, etc. À l'époque de Rabbi Yehuda Hassid, donc au 13e siècle. Et là, il dit, lorsque les Turcs vont conquérir Jérusalem, ils auront la domination sur Jérusalem pendant 8 jubilés, 400 ans. Donc si on compte depuis 1517, 400 ans, ça nous fait 1917. Qu'est-ce qui s'est passé? À Hanouka 1917, le général Allenby rentre de façon triomphale. C'était le général anglais, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Et dès lors, la terre d'Israël est devenue Palestine, d'accord, sous mandat anglais. Il dit, le Rabbi Yehuda Hassid continue, il dit pendant 50 ans, Jérusalem deviendra une terre interdite. C'est de quoi une terre interdite? Ça appartient à personne. Ou bien on peut expliquer aussi qu'on ne peut pas aller à l'endroit du temple, ce ne sera pas à nous. Ça sera aux Anglais, jusqu'en 1947. En 1947, il y a eu la guerre d'indépendance. Et là, les Jordaniens ont pris toute la partie donc, de Jérusalem, dans laquelle il y avait le temple. 50 ans. 50 ans après, 1917, ça nous fait 1967, libération de Jérusalem. Et là, il dit, ça c'est le dernier jubilé dans lequel aura lieu, ça sera déjà le début des temps messianiques, comme ça il dit. Dès 1967, ça sera le début des temps messianiques, ce jubilé. Alors la fin du jubilé, c'est quand? En 2017, très bientôt. Maintenant, pourquoi nous pensons que c'est proche? Ben, Ezrat Hashem, à part tous les sons que j'ai dit que je vais encore dire, le Gaon de Vilna, il dit dans le livre Even Shema au nom de Tikkun Zohar, au nom du Zohar, il dit que la Géoula viendra en quatre étapes, pendant les quatre fêtes, pendant lesquelles le monde est jugé. Dans Gemara Rosh Hashanah, page 15, il est écrit que le monde est jugé à quatre étapes différentes durant l'année. Il dit la première étape, ce sera Pessah. Pessah, on sortira de Galout. Ça veut dire, on sortira de l'esclavage. Esclavage spirituel, esclavage politique, esclavage matériel. Sortie de Galout. Mais pas sortie de Galout forcément que les gens vont venir de France en Israël. Ça sera un peu plus tard. Sortie de Galout. Ensuite, Rosh Hashanah. Fin des ennemis de Dieu. Ils vont être liquidés. Après, Shavuot. C'est donc Shavuot dans une année et deux mois de maintenant. D'accord, on sera en Shavuot 2016. Kibbutz Galuyot. Tous les Juifs reviennent en terre d'Israël. Et enfin, Sukkot, quelques mois après. Donc Sukkot 2016. Et on sera déjà en Juif dans l'année 2017. Parce que Sukkot, c'est déjà après. On sera déjà en 2017 Juif, d'accord, en 5777. Sukkot, construction du temple de Jérusalem. Donc, Bezrat Hashem, si le Gaon de Vilna il a raison, le Gaon de Vilna, bon, c'est un très très grand monsieur, un des géants de Torah, mais il n'a pas dit que ce serait cette fois. Ce Pessah, parce que le Pessah l'année prochaine, Pessah dans un an, dans deux ans, dans dix ans, dans 20 ans, la Easter dans 30 ans, d'accord. On espère, simplement, voyons tout ce qui se passe, c'est ce que je vais encore vous dire maintenant, on espère avec toutes ces données-là que. Et on peut se tromper. Ça veut dire, comprenez que des conférences aussi avec des arguments bien meilleurs que ceux-là, j'en ai déjà eu il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il n'y a rien eu. Et peut-être on en refera dans 5 ans, Chassé Shalom, une même aussi puissante, ou pour le jubilé, la prochaine 7e année. Moi, j'espère que c'est la dernière, Bézat Hachem. D'après la tradition, Gog Magog aura lieu à Sukkot. Gog Magog, c'est une guerre. C'est écrit, la source de Gog Magog se trouve dans Yéhézkel, chapitre 38. C'est écrit là-bas, Dieu dit au prophète Yéhézkel, prophétise en ce qui concerne Gog, le président de Magog. Donc il y a un président, un roi d'un pays qui s'appelle Gog. De quel pays? Le pays qui s'appelle Magog. Où il est, on ne sait pas. Mais c'est écrit qu'il est au nord d'Israël. Donc à choix, Liban, Syrie, Irak, Iran, Turquie, Russie, nos meilleurs amis. C'est marrant, ils sont tous au nord. Dès qu'on va sur les côtés, ça va. Dès qu'on va vers le nord, ça ne va pas. Il y en a qui ont voulu dire que c'est l'Amérique. Ah, comment ils vont dire au nord? Il y a deux façons de dire. Ou bien tu vas au nord, tu passes par l'Ulster Nord, tu retrouves à New York. Ou bien on dit que les Américains aujourd'hui, ils viennent en Irak, ils viennent en Syrie, et c'est là qu'ils vont après venir. C'est marqué qu'un beau jour, ils attaquent, tous les peuples ensemble attaquent Jérusalem. Ce qui n'est pas trop compliqué aujourd'hui à imaginer, parce que toute la région, la syrienne-irakienne, ça devient... T'as donc la Syrie, t'as Hezbollah qui est là-bas, t'as les rebelles syriens, t'as le Daesh, t'as les Américains qui viennent, t'as les Iraniens qui veulent se mêler aussi parce que ça les dérange, t'as les intérêts russes qui sont ici, c'est un cocktail intéressant. Et une fois qu'ils sont tous là-bas, se dire, après tout, à cause de qui tout marche un peu tordu, d'autant plus que l'ONU est censée très prochainement annoncer que Jérusalem est capitale de l'État palestinien. Nous, on va hausser les épaules. Mais c'est clair qu'il peut utiliser cela comme un bon argument pour aller libérer Jérusalem. Ça va fédérer tout le monde. Le beau jour où tout le monde décide d'écouter les potes, pourquoi on se tire l'un sur l'autre, allons libérer Jérusalem, tout le monde sera d'accord. Mais le texte dit qu'ils vont tous venir ensemble, et là Dieu se dévoile, et ça va être leur fin terrible, et eux aussi vont se faire la guerre entre eux. Parce qu'ils ne sont pas copains, Hezbollah avec Daesh, et les Iraniens avec les Sunnites, et les Américains avec les Russes. Donc il y aura, à la fin, ils vont se tirer tous l'un sur les autres, et c'est la fin des haricots qui doit avoir lieu à Jérusalem. Quand, d'après la tradition juive, ça aura lieu à Sukkot. Quelle Sukkot? J'ignore. Peut-être que c'est celui, d'après ce que dit le Gaon de Vilna, dont on avait Rosh Hashana, fin des ennemis de Dieu, ça peut être leur dernier soubresaut. Là, il faut se réunissent tous, et ils viennent à Sukkot sur Jérusalem, et là, c'est leur fin. Donc dans quelques mois, si on ne se trompe pas, on se trompe toujours. Oui.
Nous, on va regarder ce qui se passe, ça veut dire.
Pardon ?
On va regarder ce qui se passe.
Alors, je pose la question à Rabbi Shalom Bachoua à l'époque. Je lui dis, d'après Kvodar, d'après les textes, c'est marqué, ils viennent vers le nord sur Jérusalem. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Surtout ici, Yoshua Yosef, on est en première ligne au nord, là. C'est sur les collines en face. Et, tu vois, ils viennent tous par millions, comme ça, des milliards. D'accord ? Hein ? On sera là tout cas. De l'autre côté, tu verras pas, tu veux dire. Alors, je me pose la question à Rabbi Shalom. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend la voiture et on file vers le sud ? Bercheva, Elat, Addis Abeba, on va en Tanzanie, d'accord. Firgo, alors, il ne m'a pas répondu, il a fait... Ça veut dire quoi? On reste ici. Donc on reste ici.
Il n'y aura pas de mort.
C'est écrit que celui qui restera à Jérusalem à cette époque sera appelé Kadosh, saint.
On doit se laisser tuer, si ça arrive?
Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On verra. On appellera Laura à ce moment.
Gog Magog, ce sera à Sukkot, mais juste avant, quand vous parlez des quatre parties, vous avez dit que si à Rosh Hashanah, tous nos ennemis seraient.
J'ai dit qu'à Rosh Hashanah, ils sont éliminés, leur fin. Donc, j'imagine qu'il y aura pour expliquer donc la contradiction qui a vu qu'à Sukkot, ils doivent tout venir contre nous, j'imagine que c'est leur fin, et là, en dernier soubresaut, ils s'unissent tous ensemble et dire ouais, on va. Il faut aussi comprendre que lorsqu'on dit une date, par exemple, on va dire Shavuot, Kibbutz Galut, Shavuot, tout le monde revient. Tout le monde revient à ce moment-là. Sauf que dans le ciel, il y a le feu vert qui est donné. Et dès lors, le temps que ça descend, ça se met en place, tu comprends? On peut dire par exemple, si par exemple, on va dire à Pessah, on sort de Galout, dès Pessah, tout d'un coup, ça commence à aller mieux. C'est progressif. Donc j'imagine que si Rosh Hashanah, c'est la fin, c'est à ce moment que c'est tranché, c'est la fin, Ça commence à être leur fin, puis c'est le grand balagan chez eux. À la fin, ils s'unissent tous pour un dernier soubresaut et venir.
Les Goyim qui seront avec nous
J'imagine qu'il y a beaucoup de Goyim qui sont, oui, pour le peuple juif, c'est clair. Il y a beaucoup de Goyim qui sont pour le peuple juif, bien sûr. On parle maintenant des ennemis de Dieu. Bon, écoutez, je n'ai pas encore commencé à effleurer le sujet que je voulais, que je voulais toucher. Le Chafetz Chaim, il a dit que. Donc, le Chafetz Chaim, c'était qui était le plus grand rabbin du monde au début du siècle passé, décédé en 1933, à l'âge de 94 ans, quelque chose comme ça, ou 90 ans, en tout cas, assez vieux. Et après la Première Guerre mondiale, donc il a dit la Première Guerre mondiale, c'était le début des douleurs d'enfantement du Messie, il a dit sachez que cette guerre était c'est la plus grande guerre qu'il y a eu de l'histoire. Jusqu'à l'époque, il n'y a pas eu de plus grande guerre que la Première Guerre mondiale. Il a dit sachez qu'après cette guerre, il y aura une deuxième guerre, par rapport à laquelle la première sera. Un jeu d'enfant, Deuxième Guerre mondiale, qui a eu lieu après son décès. Il a dit, après la deuxième, il y aura une troisième, par rapport à laquelle la deuxième sera un jeu d'enfant. Les rabbins qui ont ramené cela en son nom, deux rabbins, ont dit, il s'agit d'une guerre spirituelle, pas d'une guerre matérielle, entre le mal et le bien, comme on voit aujourd'hui, comme on voit l'État d'Israël, la guerre entre le côté non-religieux et le côté religieux, même dans le monde, entre la débauche, l'immoralité face à la moralité. Mais c'est l'explication, ça, des deux rabbins. C'est pas clair que le Rav Ramsram, il a vraiment voulu dire ça. Et j'imagine, moi, qu'il se peut qu'il n'a pas voulu dire ça. Pourquoi ? Parce que si les premières guerres sont des guerres physiques, il y a lieu de croire que la troisième aussi, c'est une guerre physique. Mais espérons que peut-être que ce n'est pas une guerre physique, parce qu'on en a marre des guerres physiques, que ce soit une guerre spirituelle. Néanmoins, si on voit que ça commence à aller mal, il faut savoir que c'est possible qu'une chose pareille ait lieu. Bezrat Hashem, il faut savoir que le rabbin Sion Abachou l'avait dit, Gog et Magog, c'est une chose terrible. Dans tous les textes, on voit, c'est un tremblement, une peur, et c'est écrit que deux tiers de la terre va disparaître. C'est dans Zacharie, fin 13, début 14. Et la terre, il y en a qui expliquent dans les commentateurs, c'est la terre d'Israël, il y en a qui disent dans le monde entier. Donc une chose qui est terrible. Le rabbin Sion Abachou m'a dit, à mon avis, il m'a dit, Darti, à mon avis, tout le décret de souffrance de Gog et Magog est déjà passé dans la Shoah. On a déjà tout payé, c'est fini.
Est-ce qu'on a parlé de deux tiers dans la Shoah
ou... En tout cas, au niveau souffrance, c'était bien plus que deux tiers. C'était la totale. Donc il pense que Gog et Magog, il y aura. Mais sans tout le décret de souffrance. Bezrat Hashem, c'est bon, en espérant qu'il avait raison.
Si on parle les deux tiers, ça fait mal quand même.
Pardon ?
Si on parle les deux tiers, ça fait mal.
Non, elle dit que tout est déjà passé, le décret de souffrance est déjà passé dans la Shoah. Maintenant, Gog et Magog aura lieu, en tout cas pour Am Israël, les ennemis d'Hashem, c'est clair que ça sera très, très, très mauvais pour eux. Et pour Am Israël, ça sera Bezrat Hashem pas trop dur. On espère. Ça sera, on appelle ça la péridurale. Accouchement sans douleur. Bezrat Hashem, j'espère. En tout cas, pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'on parle qu'en septième année, il y aura la guerre qui est le début de la Géoula. Et d'après le Chafetz Chaim, si ce n'est pas une guerre spirituelle, il y a une guerre aussi matérielle. Maintenant, quelle est cette guerre ? On voit que dans le monde aujourd'hui, les choses commencent à s'exciter. Ça fait peur. Je vous rajoute deux petites informations qui, moi personnellement, m'ont convaincu de vous faire ce cours-là. On repart vers le Gaon de Vilna. Il faut comprendre qui c'est le Gaon de Vilna. C'était, on l'appelle le Gaon, dans le monde des Yishuot, le Gaon, le génie. C'est extraordinaire, extraordinaire, d'une sainteté. Cet homme-là est témoin de son élève, le Chaim de Vologine. Il étudiait 5h30, dormait une demi-heure. Comme ça, toute sa vie, en tout cas des dizaines d'années. Il écrit dans son Pérouche, il a un commentaire sur une partie du Zohar, le Sifra des Sinyuta. Il dit, je tiens cette explication de Yaakov Avinu. Il étudiait avec. Il y a eu un ami, c'est son problème, d'accord, mais même Yaakov, ben, c'est. Alors, il y a une Kabbalah en son nom, une tradition en son nom, qui n'est pas écrite. Mais il faut savoir que la première Aliyah, il y a eu plusieurs Aliyot, n'est-ce pas ? La première Aliyah, c'est une Aliyah religieuse. C'est pas Herzl, c'était bien avant. C'est le Gaon de Vilna, les élèves du Gaon de Vilna a dit, Mashiach peut venir. Et d'après beaucoup, le Gaon de Vilna est considéré comme Mashiach ben Yosef. C'est lui qui a mis le mouvement en marche de retour physique en terre d'Israël. Donc la première Aliyah, c'était les élèves du Gaon de Vilna. Le Rav Kessenbogen, le Rav Mishkilov, d'accord. Ils sont tous venus à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Toute la communauté qu'on appelle Chalmers, c'est les Jérusalem, les Yerusalemites Chalmers de Jérusalem, qui s'habillent en chassidim, ce ne sont pas des chassidim, ce sont des tchalmers, ce sont des élèves de Gaon de Vilna. Il y a une Kabbalah chez eux, une tradition très ancrée que tout le monde connaît, déjà moi 30 ans j'ai entendu ça, il a dit comme ça, lorsque les Russes vont conquérir la Crimée, Machiav se rapproche. C'est joli. La Crimée c'est une presqu'île en Ukraine, qui a été conquise par les Russes il y a quelques mois, et que depuis ce jour-là, le monde occidental fait contre la Russie des mesures draconiennes d'embargo et de boycott, etc., qui asphyxient la Russie. Non seulement cela, maintenant il y a un grand débat entre l'OPEP et les États-Unis sur le pétrole, et le prix du baril, il a baissé plus de moitié. D'accord, il baisse. À un point tel que la Russie, qui est exportatrice de pétrole, ne peut plus maintenant exporter à bon prix, donc elle est asphyxiée elle aussi. Donc la situation est extrêmement dure. Le Gaon de Vilna, il a ajouté une deuxième chose. Il a dit, lorsque des navires russes de guerre traverseront Istanbul, donc le détroit du Bosphore, parce qu'il y a un passage depuis la mer Nord, maintenant les Russes, donc ils ont Sébastopol, qui est la capitale de la Crimée, ils ont là-bas des ports militaires, donc ils peuvent passer par le bateau par la mer Noire, arriver en Méditerranée. Lorsque des navires de Russes, guerre, dit la Gaon de Vilna il y a 250 ans, traverseront Istanbul, Bnei Israël revêtront des habits de fête, pour dire « Machiav, il est là ». Alors comment ça se fait que les navires russes de guerre vont passer par là-bas? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est absolument fou. Je vous lis maintenant les nouvelles que mon technicien m'a mis sur le bureau. Ça date d'il y a 2 semaines. 2 bombardiers russes interceptés par le Royaume-Uni au-dessus de la Manche. 2 bombardiers russes susceptibles de transporter des ogives nucléaires ont survolé la Manche. Les armées britanniques, françaises et norvégiennes sont en alerte. Je vous lis tout. Allez, je vous lis. Selon les informations de 20 minutes ce jour, 2 bombardiers russes ont été interceptés mercredi dernier par le Royaume-Uni. Il s'agissait de 2 TU-96 transportant une arme nucléaire très probablement inerte, indiquait une source militaire britannique. D'après le quotidien britannique Daily Mail, les 2 bombardiers n'avaient pas signalé leur présence. Ils ont d'abord été repérés au large de la Norvège avant de filer vers les côtes britanniques, provoquant le déroutement de 2 avions de ravitaillement en vol, IL-78 et de 2 chasseurs MiG-31. L'intrusion des Russes, qui n'avaient pas déposé de plan de vol et dont les transpondeurs avaient été débranchés, en outre engagé le décollage de F-16 norvégiens qui ont filé les Russes et vérifié qu'ils ne violaient pas l'espace aérien. L'armée norvégienne a été relayée par les chasseurs de la Royal Air Force, puis d'un Rafale français qui aurait escorté les 2 avions russes pendant 1/2 heure jusqu'à ce qu'ils quittent la zone. L'ambassadeur de Russie aurait été convoqué le lendemain par le gouvernement britannique pour s'expliquer sur les survols inhabituels de la zone. Ce dernier a jugé l'émotion de la défense aérienne du Royaume-Uni ainsi que celle de Norvège et de la France, entre guillemets, bien futile, fermer les guillemets. Vous avez dit quoi, ça va, 2 bombardiers qui sont passés, nucléaires, ça ne dérange personne. Les experts cités par le quotidien britannique estiment que cette intrusion pourrait être considérée comme une agression et une manœuvre pour vérifier la rapidité d'intervention de la Royal Air Force. Pour rappel, en décembre 2014, l'Union européenne avait adopté des sanctions drastiques contre la Russie. Ces mesures concernaient notamment les investissements, les services, les échanges avec la Crimée et Sébastopol, dans le but de réaffirmer la politique de l'Union, qui consiste à ne pas reconnaître leur annexion illégale par la Russie. Depuis les intrusions des avions russes dans l'espace aérien de l'OTAN se sont multipliées. Donc ce n'est pas la première fois. Il y a 2 jours, la télévision russe annonce, dans son émission L'Essentiel, une chaîne de Saint-Pétersbourg a expliqué en détail comment la Russie pourrait s'emparer de Berlin en cas de guerre. Et si Vladimir Poutine décidait d'envahir Berlin, une idée qui n'est évidemment pas à l'ordre du jour, mais à laquelle s'est intéressée la chaîne de télévision russe Petersburg TV5, comme le rapporte Le Point. La 5e du pays a expliqué, donc une dame j'imagine, image à l'appui, comment les chars russes pourraient débarquer à Varsovie et Berlin si une guerre éclatait sur le sol européen. La télévision russe, on raconte, imaginez, alors je raconte la suite. C'est dans l'émission dominicale L'Essentiel que ce document de propagande a été diffusé. Dans cette vidéo, le commentateur explique que Varsovie n'est qu'à 1300 km et qu'un char T9, donc les chars russes, pourrait y arriver en 24 heures. Il ajoute avec ironie, et Berlin n'est qu'à 1800 km. Pour l'armée moderne, c'est une distance raisonnable. Nos soldats pourraient même s'y rendre à pied, comme il y a 70 ans. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas allés à Berlin. Au cours de cette vidéo assez sidérante, le commentateur poursuit alors « Beaucoup d'officiers russes connaissent l'Allemagne. Il ne faudrait pas occuper les anciennes villes de la RDA. Pour Londres et Washington, nous avons besoin de bateaux et d'avions, mais notre armée est grande, on pourra encore laisser une partie à Moscou. Maintenant, mon humble avis, le seul type un peu solide qu'il y a dans le monde ici, c'est Poutine. D'accord ? C'est un sans foi ni loi, il veut annexer un pays. Il le prend, il leur fait avec tous comme ça. Et tout le monde, personne ne fait rien. Personne. Partir en guerre, c'est quelque chose. On en a peur, on va partir en guerre comme ça. Alors on fait des sanctions. Eh, ok, sanctions. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui mettant, vous le mettez en état d'asphyxie, au bout d'un moment, ça risque de péter. Je ne sais pas. Je ne suis pas du tout politicien, je ne sais pas. Je vois que le monde aujourd'hui, il part en cacahuète. En France, avec le mouvement djihadiste qui fait ce qu'il fait, on est au courant, Copenhague, l'hypercacher, Charlie Hebdo, la guerre contre Daesh dans le monde entier, l'Amérique qui vient ici, tout cela nous dit attention. Alors on espère, Bézat Hachem, que tout se passera bien miséricorde, sans effusion de sang, sans problème. Ça nous concerne, nous, pour faire tchouva, se préparer. Encore une fois, peut-être il n'y aura rien, mais peut-être il y aura. On attend depuis tellement longtemps, on voit tellement de signes, les paroles des rabbanim, les dates qui pourraient, Bézrat Hachem, correspondre. Est-ce qu'il y a une chose que je n'ai pas encore dite ? J'ai encore des belles choses à vous raconter. Hein ? Juste en parenthèse. Dans la prophétie de Gog ou Magog, verset 38, c'est marqué, Dieu dit au prophète, prophétise contre Gog, le père de Magog, prince suzerain de Meshech et Tuval. Prince suzerain de Meshech et Tuval. Qu'est-ce que c'est que Meshech et Tuval? On ne sait pas. Il y en a qui disent Meshech, c'est Moscou. Meshech, c'est la même lettre, Moscou. Alors peut-être qu'effectivement, Gog, qui doit venir du nord, ce serait la région russe. D'autres disent que c'est non les Américains, ou c'est encore quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Peut-être la Turquie, c'est aussi quelqu'un qui se pense. Le grand président qui lui aussi commence à vouloir prendre. Marquer son empreinte dans l'histoire. Une belle histoire, on finira avec cela. Lorsque. Il y a donc quelques mois, la Russie a conquis la Crimée. Il y a un mariage ici, je suis allé, j'ai rencontré là-bas mon ancien Rosh Kollel, le Rav Krashevski, il y a 30 ans, non, j'exagère, 25 ans, d'accord, Rav Krashevski, un vieux rabbin ashkenaz, d'une vieille famille de Jérusalem. Et je lui ai raconté ce que le Kabbalah, la tradition du Ragon de Vina, la Crimée, machin, tout ça, il me dit, moi, je raconte une histoire. Mon grand-père m'a raconté que le grand-père de sa femme, était un Chalmers, un habitant de Jérusalem, qui était d'origine ashkénaze européenne, qui habitait ici, et qui est très proche du Maharil Diskin. Maharil Diskin, Maharil c'est Mourenu Arav Yeshua Leb, c'est l'acrostiche, les initiales de Mourenu Arav, notre maître, le Rav Yeshua Leb Diskin, de Brisk. C'était un rabbin. Je ne parle que de grand rabbin, hein, mais c'était inimaginable. Il vient de Brisk, et de Brisk, il a quitté Brisk, il est venu à Jérusalem. Quand on va vers la Tachanah Merkazit, vous verrez qu'on rentre à Jérusalem, vers la droite, il y a un grand bâtiment, un vieux bâtiment comme ça, avec des tours. Ça, c'était un Beit Yitomim, un orphelinat qu'il a construit à l'époque. On connaît l'orphelinat Diskin, d'accord ? Ça, c'est une chose, un des projets qu'il a chapeauté. Pour vous dire un peu sa grandeur, lui étudiait la Gemara, il étudiait la même Gemara, il peut étudier à Pipchat, après le sens simple, de 6 explications différentes. Prenez Maratak, il fait Rashi, Tosot, Ran, Rambam, encore un pshat à lui. Shabbat, Kabbalah. L'Agmara, un pshat Kabbalah. Un jour, on l'a montré à un érudit, on lui demande combien de feuilles il y a sur l'arbre. Il dit 3756. Comment on sait s'il a raison? Il fallait compter les feuilles, qui a la patience? Comment on vérifie? On coupe une branche. On compte combien de feuilles il y a? 19 branches. Maintenant, combien il y a? Il dit 3960, le chiffre qu'il a dit avant, moins 19. Donc il avait une vue générale des choses. Un grand, grand, grand monsieur, extrêmement sain, extrêmement sain. Le grand-père de la femme du grand-père du Rav Krashevski s'appelait Rabbi Yaakov, on l'appelait Hamenaker. Le Menaker, c'est celui qui a comme métier d'enlever les graisses interdites des animaux. Dans les animaux, il y a certaines graisses interdites. C'est très proche du Rav, du Maharil Diskin. Le Maharil Diskin lui a dit, écoute, on manque maintenant de menakrim, de gens qui savent faire ce métier, apprends ça. Et vu qu'il était, donc il a retenu ce métier, et que c'est un métier qui a besoin toujours de l'avis du rabbin, il est très proche du Maharil Diskin. Et il raconte, et donc il a raconté ça à son petit-fils, qui a raconté ça donc le grand-père de mon rabbin, qui le racontait. Donc on a en tradition directe. Que lorsqu'il est venu de Brisk, c'est au-dessus de la Pologne, d'accord ? C'est en Lituanie. Il est passé par Istanbul. Arrivé à Istanbul, il a dormi là-bas, la nuit, chez le rabbin. Au milieu de la nuit, comme tous les grands rabbins, au milieu de la nuit, on se lève pour étudier. Il a regardé quelques livres qu'il y avait dans la chambre là-bas, et tout coup, il voit un livre, puis c'est intéressant ça. Hop, il prend le livre, il se met à étudier. Il dit des chidushim, des nouveautés, des gilouim, comme ça il m'a dit le rabbin, des gilouim, des découvertes extraordinaires. Bon, il étudie comme ça quelques heures, après il s'assoupit un peu, il se réveille, le livre n'est plus là. Il cherche, dans la bibliothèque, sous le lit, sous l'armoire, le lit a disparu. Il cherche partout. Je suis très embêté, quoi. Le livre du rabbin, il a disparu. Bon, le matin, il se lève, enfin la prière, il dit au rabbin, écoutez, il y avait votre livre là-bas, j'ai lu un peu, je ne trouve plus. Il me dit, de quoi vous parlez ? C'est le livre, là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, aucun problème. Bon. Il arrive à Jérusalem, il dit, il faut que je retrouve ce livre-là. Il le cherche partout. Ce livre n'existe pas. Quel livre c'était ? C'est un livre écrit par un des plus grands kabbalistes ashkénazes de tous les temps, le Rav Shimshon Estropolai. Ceux qui ont l'habitude, c'est bien, la veille de Pessah, de lire le secret kabbalistique de Rav Shimshon Estropolai sur la Haggadah. C'est une sgoula pour ne pas avoir aucun problème durant la vie. C'est un très beau secret à lire, très intéressant. Rav Shimshon Estropolai, un des grands kabbalistes maintenant, dans les nombreux livres qu'il a écrits, il cite, tu verras à la suite de mon explication, dans le livre Mahane Dan. Le livre Mahane Dan, que j'ai écrit. Comme ça, il l'écrit dans beaucoup de livres. Voilà, référence, va voir dans mon livre Mahane. Ce livre Mahane Dan a été écrit, a été publié. Mais Rabbi Nachman de Breslav a dévoilé que ce livre était tellement saint, il y avait des grandes découvertes tellement énormes, que du ciel a dit l'humanité ne mérite pas un livre pareil, il a été retiré du monde, il n'existe plus.
Pourquoi il a jugé le livre.
Et le Ramani Diskin se lève au milieu de la nuit à Istanbul, il prend un livre, on le montre dans la bibliothèque, il sort comme ça, il lit des trucs extraordinaires, après il s'assoupit, le livre a disparu. On a montré quelques petits trucs et c'est parti. Et qu'est-ce que j'ai vu là-bas. Je lui ai dit, il a dit une découverte, il a dit sache, à l'époque Ramani Diskin, c'était il y a 150 ans ici, il y avait les Turcs. Il dit sache, après les Turcs viendront ici les Anglais. Ça, j'ai vu dans le livre. Après les Anglais, il y aura les Juifs. Après les Juifs, il y aura ou les Anglais ou les Russes. Et là, ça sera la Géoula. Ou les Anglais ou les Russes.
Le Rabbi Nachman Breslav, il avait lu ce livre ?
J'ignore. En tout cas, il a entendu parler.
Ah, là, c'est grand les pays du Nord, ça pourrait être.
Ça peut être les Américains qui viennent et qui se mettent au Nord aussi. On ne sait pas où il est, où ce Gog. Il semblerait que c'est le Nord. D'après le texte simple, c'est marqué au fond du Nord. Il semblerait que c'est les Russes.
En général, ce truc qui est bien, c'est qu'on dit que tout le monde va s'attaquer contre nous, ou que là, Dieu va se dévoiler, qu'ils vont se faire la guerre entre eux.
Oui.
C'est pas compréhensible. On dit qu'ils vont tous nous attaquer, mais que là, Hachem, il va se dévoiler.
Ils vont nous attaquer, ils doivent arriver et mourir à Jérusalem. Ils doivent, le tikkun de Gog Magog, ils doivent arriver et mourir à Jérusalem. Donc, ils arriveront ici.
Dans ce cas, nous, on ne va rien recevoir.
Bezrat Hachem. On ne sait pas ce qui va se passer. À la synagogue.
Hein?
Je ne sais pas comment ça se passera dans les détails, je n'ai pas la moindre idée. Quand il pose la question à Rabbi Nachman de Breslav, il m'a dit on reste ici. Dans le texte, il y a des choses terribles qui sont écrites. C'est marqué qu'une partie de la ville partira en exil, les femmes seront violées, il y a des trucs terribles qui sont marqués. Le Rabbi Nachman, il a dit c'est déjà passé dans la Shoah. Da'ati, comme ça je pense. Il peut se tromper, on ne sait pas. Quel livre ?
Le livre que Rabbi Nachman, il a...
Mahane Dan, c'est un livre qui a disparu. On l'a pas. Personne l'a. Le Rav, Marek Diskin, a eu la chance d'en lire quelques lignes une fois, il y a 250 ans. Ok, messieurs. Berat Hashem, il faut faire tchouva. C'est le but de mon cours. C'est pas pour vous faire transpirer, c'est pour qu'on se réveille, qu'on prenne sur nous un petit truc supplémentaire. Parce que si ça commence, on est Rosh Chodesh Adar aujourd'hui. Rosh Chodesh Adar, c'est marqué, il faut commencer à rentrer en Simra. C'est le mois de la Géoula de Purim. Après, il y a le mois de la Géoula de Pessah. C'est le bon mouvement, alors notre Hachem, on y est et il y a besoin de beaucoup de mérite. En fonction de nos prières, de notre sainteté, de notre étude de Torah, la Géoula viendra facilement. Mashiach, il veut venir. C'est nous, il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Baruch Adonai, l'homme va